Est-ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent, ils nous accompagnent tous les jours? On aimerait bien, n'est-ce pas? Mais des fois, ne nous accompagnent pas. Pour commencer, je vais vous lire une histoire. Voilà, une croyante âgée que les épreuves n'avaient pas épargnée disait: les soucis ne me laissent jamais éveiller la nuit. Je les laisse à la porte de ma chambre couchée. Et j'ai dit au Seigneur: prends soin de mes affaires. Donne-moi un bon repos afin que je puisse reprendre ma tâche demain. Mais les nerfs, lui a dit quelqu'un, ne sont-ils pas parfois plus forts que votre volonté? Je l'avoue. Mais alors je récite l'alphabet des promesses de Dieu que je me suis composé. Voilà la lettre A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Là, le psaume 60. La lettre B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dans Jérémie. La lettre C. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés donc aucun bien. Psaume 34. La lettre D. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Dans Jean 15. Cela me calme et m'apaise, et je dors tranquille. Voilà. Remettre toute chose entre les mains de Dieu. Et ce matin, je désire vous parler d'un roi dans l'Ancien Testament qui a vécu de bons moments, mais aussi de mauvais moments. Hein, on vient de chanter, oui, la grâce m'accompagneront tous les jours, on aimerait bien. Mais des fois, dans notre vie chrétienne, il nous manque. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et c'est le cheminement de chacun de nous. Hein. Il a vécu exactement ce que nous vivons et ce que nous vivrons. Donc, ces passages dans l'Ancien Testament, ils nous servent comme exemple. Paul, il nous l'a dit, les choses qui nous ont été écrites dans l'Ancien Testament, ils nous servent d'exemple. Nous devons en retirer des enseignements spirituels qui sont bons pour notre âme et pour nous conduire dans le chemin de Dieu. Faire confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu. Dans Jérémie 17, je viens de le lire. Hein, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Jérémie 17, 7. Alors, ouvrons nos Bibles dans les deux chroniques. Deuxième livre des chroniques, chapitre 26. Deux chroniques. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatsia. Ozias rebâtit Éloth, et il fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ce père. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gad, le mur de Jabné et le mur d'Asdod, et construisit des villes dans les territoires d'Asdod et parmi les Philistins. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il le fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptés d'après les dénombrements qu'ils firent les secrétaires Jaïel et commissaire Massaja, et plaça sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillantes guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir les rois contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Et il se fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les toits, sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Jérémie 17. Ozias, c'est le roi de Juda. Son père, il est mort à Matsia, et c'est lui qui l'a remplacé. 16 ans. 16 ans. En pleine jeunesse. Et c'est lui qui l'a tout fait. À 16 ans, il s'est mis tout de suite au service de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre aujourd'hui, pour notre jeunesse. Et j'ai dit l'autre fois dans les prédications, arrêtons de chercher des excuses. Beaucoup qui disent, « Ah, je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou je n'ai pas la force, je ne sais pas parler. » Ici, à 16 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu à travers son ministère. Il nous est dit, verset 4, « Ozias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Parce que, de l'autre côté, il y avait les royaumes de Samarie. C'est là qu'il y avait les idolâtres. Des idoles partout. Et la population, il s'était un peu éparpillée. Et lui, à 16 ans, il a tout remis en place. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Et son père, il avait fait de même. Comme quoi, l'exemple du papa et de maman, c'est très important. Les enfants, ils nous regardent. Ils nous regardent. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Et Ozias, il a grandi dans une maison où on respectait Dieu, où on avait la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, malgré ses 16 ans, il a suivi l'Éternel, parce qu'il avait la confiance en Dieu. Avons-nous cette confiance? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Ah, on aimerait bien, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas connu des moments difficiles où on s'est aperçu que le bonheur, il n'était pas à notre porte, ou même la grâce, à cause du péché que nous avons commis, cette grâce a été coupée, pas de communion avec Dieu. Et c'est dans ces moments-là que les choses, ils se gâtent. comme on dit. Hein? Au verset 5, il fit tout ce qui est droit à l'Éternel. Au verset 5, pourquoi il a pu faire toutes les choses qui sont gréées à l'Éternel? Verset 5, il rechercha l'Éternel. Il n'a pas recherché de l'aide auprès des prophètes, parce qu'il y avait Zacharie, c'est un grand prophète, hein, ou le conseil de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recherché que l'Éternel. La seule chose qui lui intéressait, c'était Dieu. Aujourd'hui, c'est pareil, hein. N'écoutons pas ceux qui, soi-disant, et entre guillemets, ils ont l'intelligence, ils ont la connaissance, ils connaissent, ils savent expliquer les choses. Écoutons notre cœur. Écoutons notre cœur, car nous avons le Seigneur à l'intérieur de nous-mêmes. Paul nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, il nous parle. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un il nous dise les choses. La première personne à laquelle le Seigneur se tourne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voilà pourquoi il dit, il rechercha l'Éternel, au verset 5. Résultat, si on fait les choses qui sont agréables à l'Éternel, si nous recherchons l'Éternel, verset 7, il nous est marqué, et Dieu l'aida. On n'est pas seul dans notre vie. Le Seigneur est là. On l'a vu ce matin avec le bon berger. Il marche devant nous. Il nous connaît. Il nous parle. Et nous qui lui appartenons, nous connaissons sa voix. Osias, il faisait tout pour l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé. Et il a rétabli des endroits. Il a mis des fortifications partout. Et tout ça, pourquoi et pour qui? Pour le Seigneur. Pour défendre l'Éternel. Car l'autre royaume de Samarie, il voulait influencer les royaumes de Juda. Mais lui, il a fortifié partout. Et il a dit non. À partir d'ici, plus rien va passer que la parole de l'Éternel. Et nous devons faire exactement la même chose. Si on entend quelqu'un nous dire, apporter des enseignements qui ne sont pas dans la parole de Dieu, il faut lui mettre un obstacle. Le Seigneur, il nous a donné cet signe de la fin de temps. Des faux prophètes, des faux enseignements, des fausses doctrines, ils vont se répandre. Ils vont se répandre et ils vont rentrer dans les églises. Nous devons être des remparts. Lorsque nous voyons quelqu'un ou quelque chose, apporter quelque chose ou dire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, nous devons y mettre un obstacle. C'est ça la confiance en Dieu. Paul lui l'a dit, hein, ce que vous avez entendu de moi, annonce-le à d'autres gens fidèles, afin qu'ils puissent faire de même. Nous sommes enseignants, on l'a vu ce matin, hein, Jésus-Christ, il est notre enseignant, et nous devons apprendre. Et c'est en étudiant la parole de Dieu que nous pouvons prendre toutes ces choses-là. Et avec ces choses que nous connaissons, nous faisons confiance à Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Pourquoi? Parce que toutes choses lui réussissent. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Ne dites pas « je suis seul ». Non, on n'est jamais tout seul. Hein? C'est cantique. Hein? Jamais tout seul. Jamais tout seul. Quand ce chrétien qu'il avait dans le ciel, il avait rêvé, hein, il a regardé toute sa vie. Et alors, il marchait sur une plage, il avait quatre traces de pieds là. Les siens et de Jésus. Je suis toujours avec toi. En regardant à certains moments, il a vu qu'il n'y avait que deux 2 traces seulement. Il a dit, Seigneur, là, tu m'as laissé. Tu m'as laissé tomber, là, j'étais tout seul. Il a dit, non, mon enfant, je t'ai porté dans mes bras. Les traces que tu vois sur la sable, c'était les miennes. C'est ça l'amour du Seigneur. Faisons confiance en Seigneur. C'est ce qu'il faisait, lui. Il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il rechercha l'Éternel. Résultat, Dieu, il est là. Il nous a dit au verset 5, « Pendant les jours qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Si nous marchons avec le Seigneur, il nous fait prospérer. Il nous fait prospérer. Soit matériellement, soit physiquement, et soit spirituellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça, avoir le Seigneur avec nous. Et il y a quelque chose qu'il avait fait, il a construit partout. Et alors, quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu juste lorsque j'ai préparé ce message. Vous connaissez tous, comment s'appelle? Leonardo da Vinci. C'est un Italien, vous me direz, chauvin comme tu es. Non, mais c'était un grand homme qu'il avait l'esprit plus loin que tous les autres. Et alors, il a fait des inventions extraordinaires. Hein, le fusil qui lançait plusieurs coups, on appelle ça la mitraillette, disons. Sinon qu'il lançait des lances, ou sinon qu'il lançait pour conquérir les châteaux, pour faire tomber les murs, la balançoire qui lançait des pierres, vous voyez là, il les lançait et les murs, ils tombaient là. Mais, catapulte, voilà. Et c'est lui qui a inventé ça. Au moins, le monde, il connaît ça. Mais regardez le verset 15. Regardez le verset 15. Et c'est en préparant ce message que j'ai vu ça. Hein. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. C'était pas Leonardo ici. Hein. Et destinées à être placées sur les toits et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Voyez, c'est des choses qui déjà le Seigneur avait fait faire à cet ingénieur. Qui sait, c'est pas important le savoir, mais ce qu'il a inventé, c'est important. Pourquoi? Parce qu'avec ses inventions, il a protégé sa ville. C'est pas Leonardo da Vinci qui a fait ça, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît notre cheminement du premier moment où est-ce qu'on est venu au monde, ou même lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, au premier moment où ils ont fait l'amour, l'homme et la femme. Paf! C'est à partir de là que le Seigneur, il nous connaît. Eh oui, les jeunes rigolent. On n'est pas né sous un chou, hein? Hein? Il faut dire les choses comme ils sont. C'est du premier moment. Les gens, ils disent, oui, mais il n'est pas vivant. Non, Dieu nous dit que c'est du premier moment où il y a contact, il est vivant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des avortements. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'avortements. Et on est tout triste, tout malheureux lorsqu'on sent, oui, 150 personnes, ils ont été tués ici. Mais comment? Qu'on regarde tous ces assassinats qu'on fait de ces enfants qui sont venus au monde, qu'on les a empêchés de venir au monde. Parce qu'un avortement, c'est commettre un meurtre. Commettre un meurtre. Oui, mais il est comme ça, il est malade, comment je fais? Dieu, il a envoyé cet enfant. On ne sait pas ce que cet enfant il peut faire. Il peut dire, je vous l'ai déjà dit, le pasteur de Paris, ils ont qu'un seul enfant et il est trisomique. Mais ils sont des chrétiens. Le docteur, il lui a dit, voilà, il va naître comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Parce que si vous continuez, voilà. Ils l'ont gardé, cet enfant. Cet enfant, il a grandi. C'est l'amour de toute l'Église de Paris. Par sa gentillesse, par sa grâce. Ils sont partis en vacances en Amérique. Parce que sa femme est américaine. Ils sont partis là, un pasteur, il a porté le message du salut en Jésus-Christ. Le pasteur a dit, qui veut accepter le Seigneur? Cet enfant, il s'est levé. Il ne s'est pas beaucoup parlé, mais il a dit, moi, accepter Jésus. J'aime Jésus. Voilà, ça c'est la joie qui a apporté à son père et sa mère. Un jour, il a accepté le Seigneur. Voilà, c'est des gens qui se confient dans le Seigneur, qui ne regardent pas leur propre intérêt. C'est ce qu'il a fait Jésus. Hein? Est-ce qu'il a regardé son propre intérêt, Jésus? Pas du tout. Il a regardé notre intérêt. Car il est monté sur la croix, il a donné sa vie. Pour qui? Pour des êtres immondes tels que nous sommes. Et il est mort à notre place. Lui qui était Dieu, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Et pourtant, il dit, il s'est toujours soumis à la volonté. Il s'est toujours confié dans l'œuvre de Dieu. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est ce qu'il a fait, Osias. Mais il y a un autre verset qui se trouve toujours dans Jérémie 17, mais au verset 5. Il ne dit pas « Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel », mais il dit « Maudit soit l'homme dont le cœur se retire de l'Éternel ». Pourquoi je vous ai parlé d'Osias? Parce que Osias, il s'est confié à l'Éternel au commencement, mais ensuite son cœur, il a lâché l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on lâche le Seigneur? Ce qu'il est arrivé à Osias. Hein? On peut continuer à lire le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, pourquoi il est devenu puissant? Parce que le Seigneur, il l'aida. Il s'est confié en l'Éternel. Il a fait tout ce qu'il était bon pour l'Éternel. Et l'Éternel, il l'a aidé. Mais, verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Maudit soit l'homme qui se confie à lui-même. Voilà, il est devenu puissant et il a abandonné. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Non. Ça dépend de notre propre penchant. Il est devenu puissant. Et il a laissé son cœur s'éloigner de Dieu. C'est ce qu'il dit. Son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsque nous comptons sur nos propres forces, c'est là que nous tombons. L'exemple, Samson. Vous vous rappelez Samson? Hein? Il y avait et Dalila. Allez, je t'aime, révèle-moi ton secret. Bon, voilà, mon secret, c'est ça. Alors, il l'a révélé aux Philistins. Les Philistins, ils se jettent sur lui. Oui, Samson. Mais à la fin, il lui a révélé les secrets. Il croyait de se délivrer comme les autres fois, mais c'est marqué, mais l'esprit, il l'avait quitté. C'est avec le Seigneur que nous sommes forts. Lorsque le Seigneur il s'en va, nous sommes les plus faibles des hommes. C'est ça. Son cœur hein, s'éleva. Le cœur d'Adam et Ève s'est élevé aussi. Mais non, vous ne mourrez pas. Mange, tu seras comme Dieu. Ton intelligence, il va s'ouvrir. Vous connaîtrez les choses de Dieu. Voilà, l'orgueil. Je suis. Il n'y a pas de je suis. Il est seulement. Il est. Il nous a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ces exploits, ils ne sont valables que si Dieu est avec nous. Car c'est l'œuvre de Dieu en chacun. Pourquoi est-ce que son cœur, il s'est élevé? Et il continue à dire, verset 16, « Il pécha contre l'Éternel, pas contre les peuples. » Il n'avait rien à faire du peuple. En tant que roi, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Mais il a péché contre l'Éternel, contre Dieu. Il a laissé son cœur le diriger. Et vous savez, notre cœur est mauvais. Le Seigneur, il nous l'a dit, hein, tout ce qui est dans le cœur est mauvais. Voilà pourquoi il nous a dit, je ferai une alliance nouvelle avec vous. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. D'ailleurs, lorsque nous avons accepté le Seigneur, il a fait quoi? Il a changé notre cœur. Et il a mis en nous un esprit nouveau. C'est exactement ce que le Seigneur il désire faire avec tous ceux qui lui font confiance. Mais comment je vais vivre cette vie chrétienne, Seigneur? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais lui, il a élevé son cœur et il pécha contre l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'on élève notre cœur et lorsqu'on est orgueilleux, versets 16 à 18, regardez, il continue. Pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Vous me direz, mais il a fait une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais il ne suit pas la loi de Dieu. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on croit que sont bonnes. Mais sont-elles selon la loi de Dieu? On parlait de l'avortement. C'est difficile d'avoir des enfants trisomiques ou des enfants qui sont malades. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire moi, avec un enfant comme ça? Je vais m'en débarrasser. Fais confiance à Dieu. Et ici, il nous est dit qu'il voulait brûler des parfums sur l'autel des parfums. C'était quelque chose de bien. Mais Dieu, il avait interdit. Qui pouvait brûler le parfum? C'était que les lévites ou les souverains sacrificateurs. Ce n'est pas son lot, ce n'est pas son service, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Les rois aussi d'Israël, Saul, il voulait faire des choses pour le bien du peuple. Et pour le bien de la ville. Mais Samuel lui a dit, mais je ne t'avais pas dit, moi, de faire comme ça et comme ça. Oui, mais tu comprends, le peuple, il était là, il s'impatientait, il avait besoin de... Mais Dieu, il n'aime pas ces choses-là. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Parce que c'est Dieu qui a disposé le salut. Ce n'est pas l'homme. Dieu, il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Aujourd'hui, on lui dit, fais des bonnes œuvres et tu seras sauvé. Et peut-être tu seras sauvé. C'est Dieu qui a préparé le salut. Ce n'est pas l'homme. Nous qui sommes ici avons le Seigneur dans notre cœur. Nous pouvons dire, s'il m'arrive quelque chose, je vais au ciel, je vais rejoindre mon Seigneur et Sauveur. Oh, mais t'es pas un peu orgueilleux de dire ça? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans 1 Jean, il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, lorsque nous disons, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Et nous devons faire confiance en Dieu. Je vous ai raconté cette histoire du petit prédicateur. Il était tout petit, 1,50 m. Il rentre dans un bar où il avait les motards, des gens de mauvaise vie, là. Il rentre là, tout petit. Il a dit, vous êtes tous des pécheurs. Dieu va vous condamner. En grand, il s'approche, il le prend comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, ah, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. Voilà, c'est... C'est Dieu qui dit ces choses. Lorsque nous disons aux gens, si tu ne te convertis pas au Seigneur, tu vas être condamné, tu vas être jugé. Ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est Dieu qui le dit. On l'a vu dimanche dernier, car Dieu est amour, mais Dieu, il est saint. Dieu, il est juste. Il ne peut pas, en étant amour, sauver tout le monde. Il ne peut pas, parce qu'il irait contre sa propre justice. Par contre, pour assouvir sa justice, il a fait retomber cette mort qu'il était sur nous, car le salaire du péché, c'est la mort, et tous on a péché. Il n'y a personne qui n'a pas péché. Parce que celui qui n'a pas péché, il ne meurt pas. C'est ce qu'il dit la Bible. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors, il a fait retomber cette condamnation sur Jésus et sa justice est assouvie. Et il manifeste la grâce. Les dieux d'amour, il manifeste parce que sa justice a été assouvie. C'est ça, il faut faire confiance à Dieu. Il est devenu présomptueux. Voilà, je suis puissant, je n'ai besoin de rien. Hein? Jésus l'a dit à l'Église en Apocalypse, hein, « Je suis riche, je n'ai besoin de rien. » Le Seigneur il a dit, « Répands-toi, répands-toi, car tu es pauvre. Hein? » Par contre, Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Voilà, toute la différence est là. Il devint présomptueux. Il a péché contre l'Éternel. Résultat, lorsqu'on compte beaucoup sur nos propres forces, versets 19 et 20, la colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Il était en train de faire, de purifier le temple. C'était pas à lui de le faire, mais lui, il l'a fait. Il croyait bien faire. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, pourquoi il s'irritait contre les sacrificateurs? Parce qu'ils lui ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Un peu comme Jean-Baptiste qu'il avait dit à Hérode, il s'est baladé avec sa belle-sœur. Et il a dit, il n'était pas permis de prendre ta belle-sœur comme épouse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en prison. Et voilà, les sacrificateurs, et comme s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre écrasa sur son front. La punition des dieux. Ils n'aiment pas les gens du monde. Vous savez, entendre la vérité, c'est pas bon. Hein? La vérité fait du mal. Mais nous devons leur dire la vérité. Parce que c'est Dieu qui nous l'a dit dans sa parole. Et lui-même, il le dit dans Ézéchiel, « Oh, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle. » Le sentinelle, il est bien placé. Il voit de loin, le peuple est tranquille. Il voit de loin, il voit l'ennemi arriver. L'ennemi, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, il est là. Hein? Il est là. Parce que dans Hébreux, il nous a dit, lorsque le dernier temps furent arrivés, les derniers temps, ça veut dire quoi les derniers temps? Que le Seigneur il va venir bientôt. Les derniers temps, Dieu, il a envoyé son Fils. Quand est-ce qu'il l'a envoyé? Dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Je suis italien, mais vous êtes français. Lorsqu'on dit les derniers temps, c'est les derniers temps, n'est-ce pas? Hein? Il ne faut pas être très, très intelligent pour comprendre ça. C'est les derniers temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. D'abord, il nous a parlé par les prophètes, par les visions, par des songes. Mais dans les derniers temps, Dieu, il a envoyé son fils. C'est les derniers qu'il est venu ici nous parler de Dieu, nous mettre en garde que bientôt il arriverait ses jugements. Et lorsqu'on s'élève, lorsqu'on met Dieu derrière nous, Dieu, il intervient en jugement. Et cela, il arrive des fois, même dans notre propre vie, hein, même en tant que chrétien. Hein, on fait nos petites affaires, on laisse Dieu derrière. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Car Dieu, c'est, il est un père. Et il agit comme un père. Il agit comme un père. Je m'étais éloigné de Dieu, moi. Il y a très longtemps. Et même très éloigné. J'avais ouvert un restaurant avec un non-chrétien. Et automatiquement, hein, l'argent au noir et toutes ces choses-là, ben, j'étais dedans. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Hépatite B. Eh oui. Et à cause de cela, je suis revenu. Dieu, il utilise la même chose. Lorsqu'on ne lui fait plus confiance, le Seigneur, il intervient. Ce n'est pas toujours par la maladie. Hein? Il ne faut pas dire que quelqu'un est malade et dire « Ah, c'est un jugement de Dieu !» Non. Mais Dieu, il peut intervenir sur ces choses-là pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous avons fait. Voilà pourquoi il le frappa, hein, avec maladie, la lèpre. Résultat, parce qu'il était lépreux, il ne pouvait plus rester ni dans son trône, ni parmi son peuple. Il a été chassé. C'est ça, le jugement de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions réfléchir à cela et que nous puissions vivre ces deux grandes bénédictions. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Oui, béni en toutes choses. Nous ferons des exploits. Cherchez et vous trouverez. Mais maudit soit l'homme dont le cœur se retire de l'Éternel. À chacun de nous de réfléchir et de prendre les bonnes dispositions. Amen.